Et alors, après avoir suivi l'étoile durant des mois et des mois dans le désert, les trois rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, arrivèrent dans l'étable. Ils s'inclinèrent devant la crèche où se trouvait l'enfant Jésus et lui remirent les précieux cadeaux qu'ils étaient venus lui porter. J'ai choisi pour la prédication de ce matin de retenir le texte du jour, commun aux églises chrétiennes. Et comme cela est de coutume en ce premier dimanche de l'année, le texte du jour est celui de la visite des mages à l'enfant Jésus. Que dire sur ce passage qui n'ait déjà été dit? Il fait partie des textes de la Bible les plus connus, particulièrement au sein du grand public. Tout le monde connaît cette histoire. Et pourtant, si nous jouions au jeu des sept erreurs, rien qu'avec les quelques mots que j'ai prononcés en introduction, nous aurions déjà atteint notre quota d'informations erronées. Dans le palmarès des textes bibliques les plus détournés, les plus enrichis par la tradition, pour en faire de véritables récits légendaires, notre texte du jour est certainement en pole position. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retourner au texte, de le relire ensemble, tel qu'il nous est présenté dans l'évangile de Matthieu, puisqu'il n'apparaît que dans cet évangile. Menons notre petite enquête avec méthode et précision et essayons de démêler le vrai du faux. Essayons de distinguer ce qui relève du récit biblique et ce qui relève de la légende. Alors, une fois que nous aurons débarrassé le texte de tout l'apparat dont les siècles sont venus l'affubler, peut-être y découvrirons-nous un message important, un message de Dieu pour nous. Avons-nous bien lu et bien écouté? Il est temps de démarrer notre enquête. Et pour ce faire, nous suivrons une méthode très simple en trois parties. Je vous propose de relever premièrement, ce que le texte ne dit pas. Deuxièmement, ce que le texte dit clairement. Troisièmement, enfin, ce que le texte dit de vraiment important pour nous aujourd'hui. Commençons par ce que le texte ne dit pas. Il s'agit à ce stade de nous débarrasser de tout le folklore qui décrédibilise ce passage au point d'en faire un simple conte pour enfants, un prétexte annuel pour partager une galette, briochée ou frangipane, c'est selon les goûts et les régions. Alors, qu'est-ce que le texte ne dit pas? Tout d'abord, le texte ne dit pas que les mages, ces personnages mystérieux, sont des rois. Ce n'est que des siècles plus tard que cette idée apparaîtra et qu'elle inspirera les premiers artistes qui dessineront des couronnes sur leur tête. Ces mages sont en réalité des savants, des astronomes. Ils forment une caste sacerdotale très importante chez les Mèdes et chez les Perses, en Mésopotamie en particulier. Le livre de Daniel apporte des précisions sur cet ordre du temps de la déportation à Babylone. Ces hommes jouissaient d'une position considérable. Leurs paroles faisaient autorité. Voilà qui explique l'importance qui leur est accordée par Hérode et par Jérusalem tout entier lors de leur arrivée. Mais ils n'étaient pas rois pour autant. Ça, c'est Tertullien qui viendra l'ajouter trois siècles plus tard. Le texte ne dit pas non plus que ces rois sont au nombre de trois, à aucun moment. Il précise simplement que les rois apportent trois présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Trois présents qui impliqueraient qu'il y ait eu trois personnes. Il s'agit là d'une déduction un peu simpliste. Peut-être était-il effectivement trois, peut-être pas. En réalité, nous n'en savons rien. Nous savons encore moins comment ils s'appelaient. Balthazar, Gaspard, Melchior. Ces noms dont on trouve la première trace écrite au 8e siècle nous viennent également de la tradition. Ils ne sont cités nulle part dans l'Évangile. On peut supputer qu'il s'agit d'un vieillard perse avec une barbe blanche, d'un jeune indien, un berbe, et d'un arabe avec la peau noire. Tout ça forme une magnifique diversité, symbole du salut offert au monde. Mais ce n'est pas biblique. Nous l'avons lu ensemble, l'évangile de Matthieu ne dit rien de tout cela. Toujours au chapitre de ce que le texte ne précise pas, évoquons à présent la nature de cette fabuleuse étoile. De quel phénomène astronomique s'agit-il en fait ? De l'alignement de plusieurs planètes, comme cela est avancé par certains. D'une comète, comme cela est avancé par d'autres. D'une étoile créée par Dieu, spécialement pour l'occasion. Là encore, il faut bien avouer que nous n'en savons rien. Le texte évoque une étoile, c'est tout. Nous ne comprenons pas bien non plus si cette étoile est fixe ou bien si elle est en mouvement. Au début du récit, elle paraît fixe, visible depuis l'Orient. L'image avance dans sa direction. Mais après le passage chez Hérode, elle semble en mouvement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouve le petit enfant. La date d'apparition de l'étoile, sa taille, sa position dans le ciel, sa trajectoire, tout cela est bien mystérieux. Quant à savoir comment les mages ont réussi à faire le lien entre cette étoile, repérée quelque part en Orient, et la naissance d'un roi chez les Juifs, sur ce point-là non plus, le texte n'est pas explicite. Nous en sommes une nouvelle fois réduits à des hypothèses. Ont-ils reçu une révélation divine ? Pourquoi pas ? Dieu leur parle en songe à la fin du passage, pour les engager à ne pas repasser par Jérusalem. Peut-être leur avait-il déjà parlé en songe, au début de leur périple ? Autre hypothèse. Nous savons qu'il existait à cette époque, dans toute la région du Proche et Moyen-Orient, une forte attente de l'arrivée d'un grand personnage religieux. Peut-être les mages ont-ils fait le lien, eux-mêmes, entre cette attente et l'apparition d'un phénomène céleste particulier qu'ils auront observé. Nous pouvons même pousser la spéculation un peu plus loin. Des Juifs de la diaspora étaient dispersés en Orient. Peut-être les mages étaient-ils en contact avec ces Juifs ? Peut-être avaient-ils découvert grâce à eux cette fameuse prophétie tirée du livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Je vous la lis. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat les fils de Seth. Dans cette prophétie, un lien est clairement établi entre un astre, une étoile, et un sceptre qui figure l'arrivée d'un roi. Cette hypothèse-là aussi est plausible. Mais en réalité, nous devons bien admettre que l'évangile de Matthieu ne précise pas expressément comment les mages ont réussi à faire le lien entre l'apparition d'une étoile quelque part dans le ciel et la naissance d'un roi autre part sur la terre. Voilà une liste non exhaustive de ce que le texte ne dit pas. Cela fait beaucoup, beaucoup d'éléments ajoutés par la tradition, beaucoup de mystères non résolus. Et si on y ajoute le fait que la visite des mages n'est absolument pas mentionnée dans l'évangile de Matthieu, qui rapporte pourtant lui aussi les circonstances de la naissance de Jésus, on en vient naturellement à se poser cette question. Quelle est la véracité de cet événement ? N'est-ce pas plus simple de considérer que cette visite des mages est à prendre au second degré, comme un événement purement symbolique, ajouté par l'auteur pour apporter une part de fantastique au récit de la naissance de Jésus, comme l'âne et le bœuf apportent un peu de tendresse, en quelque sorte. Dans cette hypothèse, peu importe que la tradition se permette d'ajouter de nombreux éléments, puisque de toute façon, le texte de départ lui-même serait totalement inventé. Ce serait vraiment malhonnête que d'aller jusque-là. L'âne et le bœuf n'apparaissent tout simplement pas dans les évangiles. Ils sont ajoutés, bien plus tard, eux aussi par la tradition. Ce n'est pas le cas des mages, à qui Matthieu consacre 12 versets, soit la majeure partie de son récit de la nativité. Et ces 12 versets n'ont rien de superflu. Ils sont au contraire absolument nécessaires à la bonne compréhension de l'évangile de Matthieu dans son entier, car ils apportent des indications qui ancrent la naissance de Jésus dans un contexte très spécifique. Aussi, après avoir énuméré tout ce que le texte ne dit pas, simple opération de dépoussiérage pour débarrasser nos esprits de cette imagerie qui perturbe notre bonne lecture, passons à présent à ce que le texte dit clairement. N'en déplaise aux critiques et aux sceptiques, ce texte n'a rien d'une allégorie ou d'un récit purement symbolique. Il est au contraire très bien ancré dans la réalité. Relisons ensemble le tout premier verset du chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce verset, qui ouvre le passage que nous avons lu, est en fait une notice qui apporte des indications déterminantes pour la bonne compréhension du texte. L'auteur affiche d'emblée son intention d'apporter des éléments précis et vérifiables sur les circonstances historiques, géographiques et politiques de la naissance de Jésus. Tout d'abord, considérons l'histoire. Il est précisé que Jésus est né au temps d'Hérode. Il s'agit là d'un personnage célèbre dont l'historicité n'est absolument pas remise en question. Il était surnommé Hérode le Grand. En s'alliant aux Romains et en écrasant tous ses opposants, notamment ceux qui restaient de la lignée des Maccabées, il fonda sa propre dynastie, rassembla les différentes régions d'Israël en un seul royaume et obtint du Sénat le titre de roi des Juifs. Il s'agit d'un homme paranoïaque, connu pour sa cruauté, qui fit assassiner sa femme et plusieurs de ses enfants, accusés à tort de comploter contre lui. Une fois dressé un tel portrait du personnage, on comprend mieux la panique qui le traverse quand les mages lui annoncent l'objet de leur venue, à savoir l'adoration d'un nouveau roi pour les Juifs. Et on admet comme tout à fait plausible l'événement qui suivra dans l'évangile de Matthieu, le massacre systématique des enfants mâles de moins de 2 ans nés dans les environs de Bethléem. Toujours au verset 1, Matthieu rapporte que Jésus est né à Bethléem en Judée. Voici une indication géographique, cette fois-ci, extrêmement précise. Il existait plusieurs villes du nom de Bethléem en Palestine. Il s'agit bien ici de Bethléem en Judée, cette bourgade qui se situe à moins de 10 km au sud de Jérusalem. Voilà qui est précis. Et voilà qui permet de mesurer la portée prophétique de la naissance de Jésus. Car Bethléem a beau être une toute petite ville, elle est parfaitement connue de quiconque maîtrise les textes de l'Ancien Testament. Bethléem, c'est la ville où, d'après les prophètes, apparaîtra le grand roi, tant attendu, le digne successeur de David. Les principaux sacrificateurs et les scribes ne s'y trompent pas. Lorsque Hérode leur demande « Où doit naître le roi des Juifs ?» leur réponse au verset 5 est claire. « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Dans cet extrait, il cite à la fois le prophète Michée et le second livre de Samuel, dans un curieux mélange, certes, mais qui apporte une réponse sans équivoque. Le véritable roi des Juifs, successeur de David, doit naître à Bethléem, en Judée. En apportant autant de précisions d'ordre historique, géographique, politique et prophétique, Matthieu annonce clairement la couleur. Certes, les événements mentionnés sont extraordinaires et nimbés de mystère. Ces trois mots à eux seuls, mage, Orient, étoile, nous entraînent, nous autres occidentaux du XXIe siècle, dans une dimension tellement éloignée de notre quotidien, tellement magique, que nous sommes tentés de basculer dans le registre du fantastique. Mais en ne voyant dans ce récit que symbole et folklore, nous passerions totalement à côté de la volonté de son auteur, qui tient à insérer l'événement qu'il rapporte dans une réalité historiquement avérée. Et puisque nous en sommes à évoquer l'intention de l'auteur, il est temps d'entamer notre troisième et dernière partie. Après avoir évoqué ce que le texte ne dit pas, après avoir évoqué ce que le texte dit clairement, posons-nous cette dernière question. Qu'est-ce que ce récit de la visite des mages a de si important à nous dire, à nous, aujourd'hui ? Sur les 12 versets qui composent ce passage, nous en avons déjà commenté largement une dizaine. Il en reste néanmoins deux que nous n'avons quasiment pas évoqués. Oserais-je dire qu'il s'agit pourtant des deux versets les plus importants ? Le cœur du message, ce qu'il y a de plus important à retenir, se situe là, niché au creux de ces deux petits versets. Je vous les lis. Il s'agit des versets 10 et 11. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur cadeau, leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Si les circonstances de leur venue conservent une bonne part de mystère, encore aujourd'hui, la réaction des mages, elle, est parfaitement lisible et inspirante. Focalisons à présent notre attention sur cette réaction. Observons-la. Elle se décompose en trois temps. Premier temps, leur cœur se remplit d'une très grande joie lorsqu'ils comprennent qu'ils sont enfants à proximité de ce roi qu'ils ont tant cherché. Ils sont dans la joie du simple fait d'être dans la présence du Seigneur. Cette précision de l'auteur ne me paraît pas anodine. Après avoir cheminé ensemble, tout au long de cette prédication, en menant une enquête basée sur des arguments purement rationnels, il est fondamental de nous rappeler que la rencontre avec le Christ est également une affaire d'émotion. L'émotion est au cœur de ce récit. Et cette émotion qui submerge les mages, c'est la joie, tout simplement. Voilà qui est particulièrement inspirant. Sommes-nous dans la joie lorsque nous venons à la rencontre de notre Seigneur ? Réaction des mages, second temps. Ils s'approchent ensuite du petit enfant. Arrivés auprès de lui, ils se prosternent et ils l'adorent. Voilà ce qu'il convient de faire en présence d'un grand roi. On s'incline par crainte, par respect. On l'adore par amour. Ce roi-ci mérite d'être adoré. Car ce petit enfant, qui ne présente aucun trait de la royauté, tel que l'homme l'imagine spontanément, n'est pas venu instaurer un royaume comme les autres. Les circonstances pour le moins modestes de sa naissance en disent déjà long sur la nature du royaume qu'il vient instaurer. Il s'agit d'un royaume inédit, fondé sur l'amour et non sur les armes. Un royaume pour les faibles et non pour les forts. Un royaume pour les pauvres et non pour les riches. Un royaume pour les enfants et non pour ceux qui se croient adultes. Un royaume pour ceux qui croient sans avoir vu. Et non pour ceux qui ne croiront qu'à condition d'avoir vu. Sommes-nous nous aussi dans la prosternation et dans l'adoration lorsque nous nous approchons de notre Seigneur ? Enfin, réaction des mages, troisième temps. Ils déposent devant l'enfant et sa mère des présents. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux d'une grande valeur. Faut-il plutôt considérer la valeur symbolique et religieuse de ces cadeaux, reflet de la magnificence du roi à qui ils sont offerts? Peut-être. Ou alors faut-il plutôt considérer la valeur marchande de ces cadeaux qui apporteront les ressources nécessaires à Joseph et à Marie pour fuir en Égypte le temps qu'il faudra? Peut-être également. Les deux lectures sont possibles et nous ne saurons pas trancher entre l'une et l'autre. Sur cet ultime point également, le récit de la visite des mages conservera une part de mystère. Nous notons simplement qu'en présence de Jésus, les mages ne se contentent pas d'être dans la joie, de s'incliner et d'adorer. Ils apportent en plus des marques concrètes de leur reconnaissance et de leur adoration. Émotion, adoration, présent. Voilà les trois temps de la réaction des mages. Il est temps de conclure. Arrivés à ce stade, nous sommes bien obligés de concéder que malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à lever tout le mystère qui entoure ce texte. Mais si grave, après tout, est-ce tellement gênant de ne pas tout comprendre et de ne pas tout maîtriser? N'est-ce pas au contraire parfaitement à l'image de toute rencontre avec le Christ? N'est-ce pas à l'image de notre propre rencontre avec le Christ? Nous savons poser des mots sur cette rencontre. Nous savons poser des dates, des noms, des circonstances. Mais l'essentiel, le plus important, nous sommes bien incapables de l'exprimer avec des mots. Il demeure mystérieux. Tout comme cette démarche mystérieuse qui a animé le parcours de ces mages depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem et à Bethléem. Au stade où nous en sommes rendus, le plus important, ce ne sont pas les mots et les explications. À ce stade, le plus important, à l'instar des mages, c'est de faire trois choses. Exprimer notre joie, adorer le Fils de Dieu, lui apporter nos cadeaux, qu'ils soient de nature matérielle ou spirituelle. Joie, adoration, présent. Voilà un beau programme pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Avec un tel programme, Hérode et toutes les puissances de ce monde auront beau se déchaîner autour de nous. Nous aurons la certitude d'être au bon endroit, là, à genoux, aux pieds de notre Seigneur, dans la joie, dans l'adoration, offrant nos vies en cadeau à notre roi. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Amen.